R22,
tout monde,
antenne,
radio,
bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création,
politique.
Donc, on va enchaîner avec le deuxième panel de cette journée qui est intitulé Histoire et réception, au cours duquel on a le plaisir d'accueillir Nicole Greta Albert, que je remercie d'ailleurs pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Normalement, on devait commencer par une communication de Cécile Dolessan et Boss pour nous parler des voix poétiques féminines camerounaises, en partant du cas de Jeanne Gomaï, de Werwer Liking, de Stella Ngama, de Marie-Claire Dati. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de retour de sa part, donc je suppose qu'elle ne sera pas présente pour aujourd'hui, donc, ce qui est vraiment dommage, mais bon. Je vais commencer par présenter Nicole Greta Albert, qui est docteur en lettres, chercheuse indépendante, éditrice associée de la revue Diogène, où elle a dirigé plusieurs numéros, dont récemment un numéro spécial sur les féminismes, et aussi traductrice, puisqu'on lui doit notamment la version française de l'ouvrage d'Adriana Panienko, qui s'intitule « Envie de génie, la contribution des femmes à l'histoire de la poésie française au XIXe siècle » paru récemment. Elle a publié, entre autres, « Sapisme et décadence », dans Paris, fin de siècle, en 2005, réédité en anglais dans une version revue et augmentée en 2016. Elle a également dirigé deux ouvrages sur la poétesse Renée Vivien en 2009 et en 2012 et consacré de nombreux articles à l'homosexualité en littérature et à des écrivaines du tournant du siècle, Renée Vivien bien sûr, mais aussi Colette, Anna de Noailles et Lucie de la Rue Mardru. Sa communication a pour titre Edith Södergran et Karin Boyd, recréation du lyrisme suédois et de tournement des codes. Elle va donc nous parler de deux figures majeures, quoique assez peu connues en France, de la poésie nordique dite moderniste, Edith Södergran et Karin Boyd, qui ont chacune à leur manière renouvelé à la fois les formes et les thèmes de la poésie suédophone, en interrogeant le statut du jeu lyrique féminin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le Framapad qu'on va vous communiquer via le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom, ou à les poser directement à Nicole Greta Albert dès qu'elle aurait fini son intervention. Donc, Nicole, la parole est à vous.
Je vous remercie. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec mon PowerPoint. C'est bon ?
Oui, tout est bon. Oui.
Voilà, bon. Alors, je vous remercie. Je vais parler de, en effet, deux figures qui ne sont pas très connues, mais dont j'espère que cette communication va ouvrir des voies et permettre une meilleure connaissance. Alors, en Suède, pays biberonné aux contes, aux sagas, où la poésie a toujours occupé une place très importante et encore aujourd'hui, deux figures féminines ont marqué définitivement les lettres dans la première moitié du XXe siècle. Edith Södergran, 1892-1923, finno-suédoise née en Russie et écrivaine suédophone, et Karin Boye, 1900-1941, l'une comme l'autre, comme vous l'avez dit, mal connue, voire méconnue en France, où peu de traductions sont disponibles, si tant est que l'on puisse traduire la poésie ou la lire en traduction. Si la critique anglo-saxonne s'est penchée sur l'œuvre d'Edith Södergran, aucun ouvrage de fond ne leur a, à ma connaissance, été consacré en français. Et faute de maîtriser le suédois, il faut se contenter d'une poignée d'articles épars parus dans d'obscures revues ou de quelques modestes entreprises individuelles et tentatives d'interprétation disponibles sur des blogs ou des sites comme Esprit Nomade. Faut-il imputer à leur relatif et symbolique éloignement géographique et à l'emploi d'une langue qui compte à peine plus de 10 millions de locuteurs leur absence des grandes collections de poésie au profit d'anthologies qui ne leur accordent pas la place qu'elles méritent. Je pense notamment à une anthologie de la poésie suédoise qui est parue il y a maintenant une vingtaine d'années. Afin que vous ayez une idée de leur œuvre, Alors, d'abord, je voulais vous mettre quelques photos. Alors, ça, ce sont trois photos d'Edith Södergran. Celle de droite est un autoportrait, puisqu'elle faisait de la photographie. Celle du milieu, donc, elle est avec son chat Toti. Et à gauche, qui est une photo que j'aime beaucoup, parce que je la trouve un peu dickensonienne, elle est habillée tout en blanc. Et il y a un détail qu'on ne voit pas nécessairement, mais elle tient entre ses mains un diapason, ce qui, pour une poétesse, me semble symboliquement assez intéressant. Et voici trois portraits de Karine Boyeux. Alors, donc, comme je vous disais, je vous ai dressé une petite bibliographie où l'on remarque notamment le rythme intense de publication d'Edith Södergran avec 5 recueils en seulement 7 ans, rédigés en suédois et parus à compte d'auteur. Il faudrait y ajouter de nombreuses pièces éparses, plus de 200 poèmes de jeunesse, pour la plupart en allemand, mais aussi en suédois, en français et même un en russe qu'elle a donc écrit entre 1907 et 1909. Karine Boyeux a également publié 5 recueils, mais elle était aussi prosatrice et romancière, célèbre notamment pour La Callocaïne, un roman de 1940, roman d'anticipation inspiré par la montée du nazisme et du totalitarisme. Côté français, vous le constaterez, la moisson est assez maigre, avec peu ou pas d'éditions récentes, et pour un certain nombre d'éditions d'ailleurs qui sont épuisées. Indice de leur relatif anonymat dans l'Hexagone, elles figuraient en septembre 2020 au programme des Journées du Matrimoine pour une lecture organisée à la Maison de la Suède à la Cité Universitaire, sous le titre éloquent « Les Suédoises invisibles », mais à l'issue de laquelle j'ai pu constater qu'elles avaient subitement gagné en notoriété quand les spectatrices, car elles étaient surtout, c'était surtout des femmes, se sont enquises avec enthousiasme des éditions accessibles en français. J'ajouterais que le choix des poèmes, qui recoupaient en partie mes préférés, avait de quoi subjuguer l'auditoire. Mon désir de faire connaître et peut-être entendre en suédois des vers comparables à une averse de lumière, pour reprendre l'expression de Marina Tsvetaeva découvrant le premier recueil de Pasternak, n'est pas étranger à ma participation à ce colloque. On a qualifié Edith Södergran de Rimbaud du Nord, Karine Boyeux de Walt Whitman suédois, preuve dans les deux cas que les modèles masculins d'évaluation restent prégnants. Qui songerait par exemple à faire l'éloge d'un écrivain mâle en le comparant à un prédécesseur, et j'emploie le terme masculin à dessein, à un prédécesseur féminin. Or, leur poésie, certes adossée à des modèles prestigieux, plutôt germaniques d'ailleurs, que ce soit Goethe, Heine, Nietzsche, rompt à bien des égards avec la langue de leurs homologues masculins et cherche à exprimer une spécificité dans laquelle les critiques ont toujours voulu se garder de débusquer des accents féministes, préférant, s'il le fallait, souligner, au risque de commettre un contresens, la féminité de leurs plumes, comme pour les situer en marge d'un discours à visée universelle, alors même que c'est cette dimension qui leur a valu d'entrer au Panthéon littéraire national. Qui se plonge dans la littérature suédoise perçoit d'emblée les parallèles existants entre les deux poètes. Elles se sont d'ailleurs vues réunies en 2011 dans une anthologie intitulée « Edith Södergran, Karine Boyeux, deux voix », au motif qu'elles ont été l'une et l'autre, je cite, « à la source du modernisme nordique » et que, je cite encore, « différentes et semblables, elles marquent l'entrée des femmes dans la poésie scandinave ». Puis, à nouveau, en 2017, on les trouve réunies dans un recueil en espagnol qui propose une sélection de poèmes, hein, une rencontre entre deux poètes suédoises. Évidemment, j'ajoute tout de suite qu'elles ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie. Pourtant, presque 2 décennies séparent leur maturité littéraire et leurs existences affichent des trajectoires divergentes, même si elles ont pour point commun de se situer en marge, dans une marge géographique et linguistique pour Edith Södergran, vivant retirée dans une petite localité de Finlande et condamnée par la tuberculose et la pauvreté, même si je m'inscris un peu en faux contre cette image de l'ermite vivant dans le dénuement, car elle a pour conséquence, je crois, d'uniformiser le mythe de Södergran sous les traits de l'artiste maudit. Marche politique et sexuelle pour Karine Boyeux, dont l'homosexualité s'invite de façon voilée dans les vers, et qui, ébranlée par les cataclysmes qui menacent l'Europe, finit par se suicider en 1941. Quête d'absolu, obsession de la mort, amour de la nature, incommunicabilité amoureuse, panthéisme inspiré, interrogation métaphysique, désespoir existentiel, refus des normes sexuelles, salut par l'écriture, tous ces thèmes centraux sous leur plume trouvent dans leur existence un point d'ancrage. Néanmoins, elles promeuvent des modes d'introspection où la subjectivité n'est pas un repli, mais une ouverture qui s'appuie sur un profond bouleversement du lyrisme. C'est cette tension entre tradition et émancipation poétique et sexuelle que je tâcherai de cerner pour mettre au jour l'originalité de leur œuvre respective dans un contexte de renouvellement des formes littéraires. Puisqu'il est impossible dans le temps imparti, même si j'ai peut-être un petit peu plus de temps que prévu, de mener une étude approfondie, je me concentrerai sur quelques aspects emblématiques propres à monter l'originalité et la radicalité de leur voix en les illustrant de trop rares exemples et non sans apporter au préalable des éléments biographiques propres à éclairer leurs choix et leurs pratiques. Edith Södergran est née à Saint-Pétersbourg en 1892 de parents finnois d'origine suédoise. Sa famille s'installe dans la même année dans sa propriété de Raivola, entre lac et forêt, où son père dirige alors une scierie, un village situé à 60 km de Saint-Pétersbourg, en Carélie, une région qui faisait alors partie du Grand-Duché de Finlande, intégrée à l'Empire russe mais qui jouissait d'un statut d'autonomie. Edith Södergran y mène une existence assez solitaire au milieu d'une nature avec laquelle elle vit en communion. De 1902 à 1909, elle fréquente un lycée allemand à Saint-Pétersbourg, lit des auteurs suédophones, mais aussi russes et allemands, puis retourne s'installer avec sa mère, devenue veuve, à Raivola. Néanmoins, quand la Finlande déclare son indépendance par rapport à la Russie en 1917, mère et fille se retrouvent bientôt ruinées, leur fortune étant placée en obligation russe. Entre-temps, Edith Södergran, atteinte de tuberculose, comme son père qui en est mort, a fait de longs séjours en sanatorium en Suisse entre 1911 et 1914, en particulier à Davos, mais elle évite dans son œuvre toute évocation doloriste, préférant le stoïcisme vibrant de celle qui évolue dans un monde, je cite, « où tous les jours des fleurs fraîches arrivent de l'enfer ». Donc, « alla daga, ferska blomo, kommer from helvetet ». Alors, je vous ai mis une photo de prise à Davos. Je ne sais pas si on voit très bien la légende. Donc, ce sont des dames en cure à Davos. Une photo de 1911-1914 que j'aime beaucoup. Alors, on retrouve le fameux chapeau, un des fameux chapeaux à plumes d'Edith Södergran. Mais surtout, je trouve cette image intéressante parce que c'est une image de sororité aussi. Et c'est un élément très important dans son œuvre. Souvent rattaché à l'avant-garde prémoderniste du début du XXe siècle, voire considéré comme le dernier poète radical du mouvement romantique, Edith Södergran, méfiante par ailleurs envers l'intelligentsia finlandaise, ne se prête à aucune étiquette et se situe en réalité au carrefour du symbolisme, de l'expressionnisme et du futurisme, à cheval entre plusieurs langues, d'où ce sentiment d'étrangeté, voire d'exil linguistique et intérieur. Dans son dernier poème en allemand, sa langue de prédilection jusqu'à ses 17 ans, elle écrit « Je ne sais pas dans quelle langue écrire. » Le choix tardif du suédois a vraisemblablement eu des conséquences sur son faible rayonnement en dehors du monde scandinave, mais il s'explique, me semble-t-il, par sa volonté d'éprouver, à tous les sens du terme, l'étrangeté de la langue, de la poésie et du monde, et de revisiter les formes d'expression. Elle l'évoque d'ailleurs à mots couverts dans « De Främmande länderna, les pays étrangers », où elle écrit « Mon âme aime tant les pays étrangers qu'on dirait qu'elle n'a pas de patrie. Dans les pays lointains s'élèvent ces grandes pierres qui portent mes pensées, alors peut-être c'est une évocation des runes aussi, très présente en Scandinavie, et ces troublantes paroles, c'est un étranger qui les a gravées sur la dure tablette qu'est mon âme. Allongée nuit et jour, je pense à des choses qui ne sont jamais arrivées. Une fois, mon âme assoiffée a pu boire. » En dépit de sa marginalité revendiquée, de son iconoclastie, Edith Södergran rejoint le mouvement moderniste en Finlande qui débute en 1922 avec la création de la revue bilingue d'avant-garde Ultra, à laquelle elle adhère, mais brièvement, puisqu'elle meurt l'année suivante. Elmer Dictonius déclara dans son article sur l'expressionnisme paru dans la revue en 1922 « Notre être intime est projeté hors de nous-mêmes, en débris explosifs, livré plus nu que ne le fut jamais le corps humain lui-même dans l'art antique. » Cette idée du sentiment d'un moi universel qui englobe tout se retrouve dans sa poésie. Si Edith Södergran fait figure d'archange du modernisme nordique, c'est à cause de l'éclat particulier émanant de ses poèmes, et cela dès Dikter, hein, Dikter qui veut dire poème en suédois, de 1916. Mais c'est avec September Lyran, la lyre de septembre de 1918, et les recueils suivants, Rosenaltaret, l'hôtel des roses et Iframtidens Skugga, à l'ombre de l'avenir, respectivement publiées en 1919 et 1920, qu'elle impose une nouvelle subjectivité, un nouveau sentiment du moi aiguisé par sa lecture de Nietzsche et témoignant d'une profonde conscience d'elle-même qui éclate dans « Remarques liminaires » insérées en tête de la lyre de septembre. Je vous lis cette prière d'un ciré qui est déjà un manifeste. Que mon œuvre soit de la poésie, personne ne peut le nier. Que ce soit des vers, je ne le prétendrai pas. J'ai bien essayé de soumettre certains poèmes réfractaires à un rythme, et j'ai découvert par là que je ne tiens la puissance du mot et de l'image qu'en pleine liberté, c'est-à-dire aux dépens du rythme. Mes poèmes sont à prendre comme des crayons nonchalants. Quant au contenu, je laisse mon instinct édifier ce que contemple mon intellect aux aguets. Mon assurance vient de ce que j'ai découvert, mes limites qui s'entend au sens aussi de mes dimensions. Il ne me sied pas de me faire plus petite que je suis. Alors, je case là un petit peu sans transition un autoportrait d'Edith Södergran, autoportrait au miroir, qui me semble vraiment bien refléter à tous les sens du terme cette déclaration, c'est-à-dire cette espèce de frontalité dans son identité de poète. Alors, le recueil dans lequel ce texte est inséré, Lire de septembre, est un recueil de 18 pièces qui révolutionne et scandalise le petit monde des lettres finlandaises, notamment pour l'incongruité de ces images poétiques qu'on peut éventuellement attribuer au fait que, comme je le disais, le suédois n'est pas sa langue maternelle ou sa langue principale, et donc elle peut se permettre un certain nombre de licences et elle le cultive. Seule Agar Olsson, jeune écrivaine et critique littéraire, la défend dans un article élogieux où elle qualifie le volume de « merveilleuse découverte ». Il s'ensuivra un échange nourri de correspondances entre les deux femmes, d'ailleurs échange publié et très très intéressant, les deux femmes qui se révèlent âmes sœurs, puis quatre rencontres à Révola et une amitié exceptionnelle qui a hâté la reconnaissance de son œuvre avec des retombées éditoriales. La radicalité de cet avertissement théorique éclaire la démarche de Södergran qui considère la poésie comme une utopie linguistique et une entreprise de démolition des préjugés de genre, non seulement par la revendication de son moi lyrique, on le voit là, mais aussi au sein de ses poèmes, à la fois état des lieux et dénonciation d'un système d'oppression des femmes qui culmine dans le manifeste libérateur de Vierge moderne, j'y reviendrai. Elle pointe d'abord le rapport de sujétion des femmes aux hommes dans le cadre des relations intimes, au centre desquelles elle endosse toutes les identités. J'en prendrai deux exemples. Tout d'abord, l'épouse, qui dépeint l'insidieuse léthargie qui s'empare de la femme mariée, s'oubliant pour se conformer à un idéal fallacieux, à un fantasme masculin. Je lis le texte. « Mon cercle est étroit et l'anneau de mes pensées fait le tour de mon doigt. Il y a quelque chose de chaleureux dans l'étrange monde qui m'entoure, comme le parfum léger d'un calice de nénuphar. Dans le jardin de mon père, des milliers de pommes pendent aux arbres, rondes, reposant en elles-mêmes. De même, ma vie, indécise, a-t-elle été formée, arrondie, devenant pleine, lisse et simple. Mon cercle est étroit et l'anneau de mes pensées fait le tour de mon doigt. » Alors je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une espèce d'abandon, je vous dis, de léthargie consentie, mais en même temps, cette léthargie s'exprime dans des termes extrêmement poétiques, comme s'il y avait une résistance intérieure, une résistance irréductible. Dans un autre poème au titre ironique, Cherlec, Amour, tiré de Dicteur, elle évoque cette reddition qui se transforme en auto-effacement, où elle dit notamment « Je ressemblais à une femme, je ressemblais à ce que tu avais vu en rêve. » Alors, je vais vous en lire juste quelques autres. Je suis arrivée à toi, je ressemblais à une femme, et comme une femme, je me suis assise à ta table. J'ai bu une coupe de vin, j'ai respiré quelques roses. Tu as trouvé que j'étais belle, que je ressemblais à ce que tu avais vu en rêve. J'ai tout oublié, j'ai oublié mon enfance et ma patrie, je savais seulement que tes caresses me retenaient prisonnière. Souriant, tu as pris un miroir, tu m'as demandé de m'y regarder. J'ai vu que mes épaules faites de poussière, qui s'effritaient. J'ai vu que ma beauté malade n'avait qu'une volonté, disparaître. Oh, serre-moi si fort dans tes bras que je n'ai plus besoin de rien. Alors là aussi, on le voit, hein, elle évoque cette reddition hein, qui se transforme en auto-effacement, comme je le disais. Sa poésie teintée d'absolu fait aussi voler en éclats la belle et fausse concorde entre les sexes. Elle enregistre une incompréhension qui tient en quelques vers à la fin du crépusculaire d'Agensfalnar, la journée fraîchie. Tu cherchais une fleur et tu as trouvé un fruit. Tu cherchais une source et tu as trouvé la mer. Tu cherchais une femme et tu as trouvé une âme. Tu es déçu. Je vous le lis juste en suédois parce que c'est beaucoup plus beau évidemment en suédois. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en fjäll. Du es besviken. Alors on le voit là, hein, elle oppose donc hein, désir masculin, sentiment féminin, mais elle s'adresse directement à l'homme et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans son œuvre. Cet appel à secouer son joug éclate dans un de ses poèmes les plus célèbres et les plus originaux, doté d'un titre en français, Vierge moderne. Il s'agit en réalité d'un manifeste fougueux et frontal que je qualifierais de pyromane pour reprendre l'expression très heureuse de Mielis ce matin. Celle qui déclarait dans une lettre à Agar Olsson « Jaer et Sverd, je suis une épée » monte à l'assaut et l'espace du poème semble incapable de contenir sa révolte libératrice. Explosion de la forme, bouleversement de la syntaxe poétique et du vocabulaire, alternance des liquides et des dentales, qu'on entend très bien en suédois, elle opte pour le vers libre, associatif et elliptique, avec des rimes déroutantes. Donc elle déclare en ouverture « Jaeng pina, ja et neutrum ». Alors je vous lis ce poème qui est absolument magnifique, que vous connaissez peut-être parce qu'il est extrêmement connu, en tout cas en Suède. Et vous remarquerez avec ce « je suis » lancé en tête de vers. « Je ne suis pas une femme, je suis un neutre, neutre ou une neutre. Je suis une enfant, un page, une résolution hardie. Je suis un ray de soleil écarlate qui rit. Je suis un filet pour poisson goulu. Je suis un toast porté en l'honneur de toutes les femmes. Je suis un pas vers le hasard et la perdition. Je suis un bond dans la liberté de se connaître. Je suis le sang qui chuchote à l'oreille de l'homme. Je suis fièvre de l'âme, désir et refus de la chair. Je suis l'ancienne à l'entrée du nouveau paradis. Je suis une flamme insolente et furteuse. Je suis une eau profonde mais téméraire, jusqu'aux genoux. Je suis feu, je suis eau et feu, allié fidèle mais libre. » Alors là, vous voyez, on a l'affirmation d'une subjectivité débridée et démultipliée qui fait évidemment écho, ou en tout cas qui prépare le fameux « fast-speaking woman hein, » d'Anne Wadman, dont on a parlé hier, sauf que là, elle ne dit pas « je suis une femme, je suis une femme », c'est elle commence par dire « je ne suis pas une femme », un peu comme Monique Wittig, et elle décline ensuite un nombre incroyable d'identités. Alors là, évidemment, l'anaphore relève de la litanie, mais elle permet aussi d'accumuler les entités ou les identités dans une totale liberté d'association linguistique et poétique, où se tissent antagonisme et antithèse. Il ne s'agit pas d'un jeu personnel, intime, mais d'un jeu tourné vers l'extérieur, la pluralité pour ne pas dire le collectif. C'est un jeu inédit, à sémantiser, ce dont elle s'emploie dans le poème, qui ne se clôt pas, mais qui devient une sorte d'élan, de force impossible à juguler, ne serait-ce que par les mots. Ce poème performatif fait éclater les formes dans sa concentration extrême. Chaque vers est un monde, un programme ouvert, hein, voire le dernier notamment, hein, qui laisse le vers en suspens avec ses points de suspension, qui se termine en français sur le mot libre, en suédois c'est pour fria villkor, c'est-à-dire selon des conditions de totale liberté. D'un réseau conceptuel, donc le sujet poétique s'extirpe de la déclaration initiale « je ne suis pas une femme » pour proposer un réseau conceptuel qui désigne la femme d'habitude comme un être replié sur soi et qui devient ici un être nouveau qui ne répond plus à une identité, hein, c'est une résolution hardie, un nouveau paradis, avec ses antagonismes réconciliés, je suis désir et refus, eau et feu, etc. La négation liminaire ouvre sur une multiplicité d'identités, de sorte que déconstruire la femme ou femme devient un acte de liberté, de libération. Gvina renvoie à une identité rétrécie, replié sur soi, qui se contient dans une absence, à laquelle elle substitue un éventail de possibilités, de pluralité, qui croise d'ailleurs l'humain et le non-humain, le vivant et le non-vivant, autorisé par ce simple refus. Le poème et la poète se postent au seuil d'un monde nouveau auquel les vers donnent réalité, puisqu'on a là l'emploi du présent. Il y a aussi la volonté, évidemment, de ne pas sexuer cet être nouveau qui est aussi le jeu lyrique, c'est-à-dire de faire signe à la femme nouvelle, mais en allant encore plus loin. Cette vierge moderne qui se dit neutre, c'est aussi, évidemment, Edith Södergran, mais elle s'extrait de la sexuation et de la sexualité, deux aspects subsumés dans l'appellation de femme. Alors, je voulais, peut-être que je n'ai pas le temps, mais bon, il faut dire qu'à l'époque, le mouvement féministe est très, très présent en Suède. Il y a des traductions, il y a notamment la traduction d'un texte célèbre d'Elisabeth Dottende, Das Neue Vab, qui est traduit en 1902, en suédois avec une préface d'Hélène Kay, et que tous les débats féministes sont très, très, très nourris en Suède à ce moment-là. Je voulais faire une petite référence à ce personnage androgyne qu'on a parfois rattaché à un personnage d'Almqvist, hein, qui est Tintomara, qui est un personnage tiré d'un célèbre texte d'Almqvist, qui est le joyau de la reine. Un personnage donc, qui est à la fois androgyne et asexuel, mais je passerai rapidement là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que ce poème est très représentatif de l'esthétique moderniste d'Edith Södergran, avec l'emploi du vers libre, les structures répétitives ou anaphoriques, les images poétiques qui, vous le voyez, sont tout sauf décoratives. Il est à lire avec d'autres poèmes tels que Violetta Schum Niga, Crépuscule violet, qui recrée une mythologie des origines sous le signe de la féminité, à travers un tableau vivant mythologique orchestré par une Amazone qui décrète que, je n'ai pas le temps de le lire, mais qui décrète que l'homme n'est pas apparu, il n'a pas été, il ne sera jamais. Alors le poème est peuplé de créatures fantastiques, des centaures, des amazones, des femmes énergiques, innocentes et martiales, dans un monde sans hommes, où les femmes épousent le soleil et non pas les hommes. Parallèlement à des poèmes où s'exprime sa sensibilité exacerbée, un désespoir intime nourri de questionnements métaphysiques. Je vous renvoie notamment un poème très très beau qui s'intitule « Gud », hein, Dieu, qui est magnifique. Elle creuse le sillon d'un propos qui vise à bousculer la binarité sexuelle. Ainsi, dans « Eros Hemligheten », le secret d'Eros, elle déclare « Je te connais, Eros, tu n'es ni homme ni femme, tu es la force accroupie dans le temple. Yachenedei Eros, du es Ikeman Okfina. » Elle-même finit par s'identifier à Orphée. Dans Orpheus, qui date de 1918, qui est recueilli dans la Lyre de Septembre, elle écrit dans une nouvelle tentative d'autodéfinition très nietzschéenne, Yaer Orpheus, Yakan Shunga Uyoyavil, je suis Orphée, je peux chanter comme je veux. Le poème qui figure dans la Lyre de Septembre, paru en 1918, est un poème charnière et le recueil aussi, qu'elle commenta en ces termes dans une lettre adressée au Dagen Press sous la rubrique « Pour un art individuel ». Elle dit « Mon livre « September Lural » n'aura pas manqué son but si un seul individu perçoit l'inouï de cet art. » En voici un autre, tiré donc de ce recueil. En voici un autre, rédigé en 1917, dont le titre figure lui aussi en français dans le texte, « Grimace d'artiste », qui fait pendant ironiquement à Orpheus, mais regarde aussi du côté du pitre châtier de Mallarmé, et où elle se peint sous la défroque d'un barde à la fois démuni et en majesté, dont la mélopée très subtile mêle anaphore et anadiplose. Je n'ai rien d'autre que mon mantelet brillant, ma rouge hardiesse. Ma rouge hardiesse sort à l'aventure dans un pays sordide. Je n'ai rien d'autre que ma lyre sous le bras, les rudes accords de ma lyre. Ma rude lyre sonne pour bêtes et gens sur le grand chemin. Je n'ai rien d'autre que ma couronne altière, ma fierté croissante. Ma fierté croissante prend la lyre sous son bras et tire sa révérence. Je m'arrêterai là pour Edith Södergran. Je trouve que finir sur ce poème, cette révérence qui n'en est jamais une vraiment, puisque bon, c'est des poèmes qu'il faut réalimenter en permanence et relire. Je soulignerai que contrairement à Edith Södergran, qui se situe à la périphérie de l'espace suédophone, Karin Boye figure en son centre. Issue d'une famille aisée dont la mère était militante politique et qui militait également pour les droits des femmes, Karin Boye est née en 1900 à Göteborg. Elle suit des études de lettres à l'université d'Uppsala, puis d'histoire, et se destine à l'enseignement. Dès l'adolescence, elle écrit des vers et des nouvelles et s'essaie à l'aquarelle. Esprit grave et déchiré, elle y exprime très tôt moins l'opposition que l'intime compagnonnage et l'imbrication entre la vie et la mort qui apparaît dans une aquarelle donc qu'elle a réalisée dans sa jeunesse, une imbrication qu'elle décline de manière récurrente dans son œuvre. Tourmentée par des problèmes métaphysiques, elle se passionne tour à tour pour le christianisme, la philosophie orientale, la pensée de Schopenhauer, de Nietzsche et la psychanalyse. Et elle fera d'ailleurs une cure psychanalytique. Pendant ses études, elle a rejoint l'organisation socialiste et antifasciste Clarté, fondée par Henri Barbusse, et elle écrit pour son magazine. Elle se marie en 1929, par convenance, avec un ami du magazine Clarté, dans une sorte d'union protégeant sa véritable sexualité. Les époux se sépareront d'ailleurs en 1932, avant de divorcer en 1934, peu après le long séjour de Karine Boyeux à Berlin en 1932-1933, où elle a rencontré Margot Hennel, une jeune juive allemande avec qui elle vivra jusqu'à sa mort, une relation tumultueuse. En 1931, elle collabore à la fondation de la revue de poésie Spectrum, porte-parole de l'avant-garde littéraire et du modernisme, où elle publie notamment une magnifique traduction du poème de T.S. Eliot, The Westland, qui répond à sa sensibilité pour la tradition anglo-saxonne. Parallèlement, Karine Boyeux commence à publier ses premiers recueils de poésie et participe activement au débat idéologique de l'entre-deux-guerres dans les journaux et les revues. Elle connaît le succès dès l'apparition de ce premier opuscule de poèmes, Nuages, Maul, 1922, un ensemble de vers libres empreints de mysticisme et d'extase esthétique. La même intensité caractérise le lyrisme de ses deux autres recueils de jeunesse, Pays caché, 1924, et Âtre, ou Foyer, 1927. La poésie est pour elle un laboratoire à la fois sensible et intellectuel, où elle se forge une langue au-delà de la logique, Sprocket Boltom Logiken, titre d'un essai qui défend la nouvelle esthétique, paru en 1932. Malgré les accents prophétiques de ses vers à l'approche de la guerre, son engagement politique n'apparaît pas ouvertement dans sa poésie, davantage tournée vers les tourments de l'individu, sa solitude dans le cosmos, qui s'exprime très bien dans ce ex libris qu'elle a elle-même dessiné, son rapport à l'absolu, qu'elle exprime de manière encore plus dépouillée, c'est-à-dire plus condensée, parfois très brève, désincarnée et abstraite, qu'Edith Sodoglan, qui opte ici et là pour une langue charnelle. Autre remarque que je n'aurai pas le temps de développer davantage, les deux autrices ont pour point commun d'être des poètes métaphysiques, cosmiques, qui considèrent l'individu face à l'univers, c'est-à-dire dans son rapport, sa proximité avec la nature. Ça, c'est un trait très fort de la Scandinavie, où la nature sert de baromètre à la vie, à l'âme et à la douleur. Le monde nordique obéit à une cosmogonie symbolisée par Yggdrasil, qui est l'arbre-monde, très présent sous leur plume, et qui est un arbre qui relie le monde d'en haut, le monde des morts, etc. Karine Boyeux intitule d'ailleurs « Pour l'amour de l'arbre », son recueil de 1935, où figure un poème qui s'intitule « L'arbre, Trädet », dans lequel on voit l'arbre en proie à une croissance mystérieuse, un autre qui s'intitule « Trädet, les arbres », pain rabougri dont l'arbre se torture à monter de la pierre, écrit-elle. Donc, un élément très, très important. Edith Sodoglan, elle, fait parler les arbres de mon enfance, comme titre d'un poème, où on les voit épouser le passé et le présent, la vie et la mort, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Cela s'exprime très bien dans cette photo Forêt d'hiver à Rivola, une photo que Edith Sodoglan a prise autour de 1915-1916. Mais là où l'arbre, pour Edith Sodoglan, signifie l'ancrage, on voit ici, le contact entre le ciel et la terre, bref, la nature apaisante, quoique parfois indéchiffrable, il incarne chez Boyeux la verticalité, l'unicité, voire la solitude, très présente, non pas dans un poème, mais là, dans cette aquarelle encore de jeunesse qui représente un boulot. Face à la nature, c'est-à-dire aussi aux pierres, aux planètes et aux étoiles, Boyeux se trouve en proie à une tension entre déchirement et apaisement, désir d'anéantissement et résurrection, qu'elle exprime dans « Ja, wisst ihr die Ont », un de ses poèmes les plus célèbres. Donc, je vous lis ici le premier, la première strophe. « Certes, cela fait mal quand les bourgeons éclatent. Aussi n'est-il printemps qui n'hésite à fleurir. Aussi s'enlisent-ils tous nos brûlants désirs dans les marais glacés de la pâle amertume. Le bourgeon, tout l'hiver, en sa gaine a dormi. Qu'est-ce donc qui l'éveille et pour le torturer ? Certes, cela fait mal quand les bourgeons éclatent, mais à ce qui s'ouvre et ce qui va se fermer. » Et la dernière strophe. « Mais alors, au plus fort d'une telle souffrance, tous les bourgeons de l'arbre éclatent à la fois, comme un champ d'allégresse, et les gouttes de sève tombent des branches et miroitent au soleil, oubliant aussitôt qu'elles avaient tremblé d'affronter un sort neuf et chargé de mystères. Elles vont se détendre et connaître, apaiser cet espoir confiant dont est fait l'univers. Alors, dernière remarque, toujours pour établir quelques passerelles entre Södergran et Boyeux. Edith Södergran n'a pas écrit de poème d'amour à l'âge adulte. On a vu, hein, par exemple, de quoi parlait son poème « L'amour » hein, chez Alec. En revanche, chez Karine Boyeux, tiraillée entre affirmation et autodestruction, l'amour torturé est partout présent, mais souvent sous une forme intransitive, adressée à un ou une autre, absente, indifférente, double et fuyante. Cette dualité prend une forme solaire dans son premier recueil, Mål, 1922, ou dans Matin, Morgon. La pluralité de l'aimé répond à l'isotopie du bonheur ou d'une magie aussi aveuglante qu'illusoire, portée par l'ivresse des mots. Je vous lis ce très bref poème. Matin. Lorsque se glisse à travers la vitre le soleil du matin, rieur et furtif, comme un enfant qui veut faire une surprise de très bonne heure un jour de fête, je m'étire pleine d'une joie débordante. J'ouvre les bras vers le jour qui approche. Car le jour, c'est toi. Et la lumière, c'est toi. Le soleil, c'est toi. Et le printemps, c'est toi. Et toute la belle, belle vie qui attend, c'est toi. Alors, cette tentative de définition de l'autre, ce désir de complémentarité au sein du couple, prendra bientôt une tournure plus douloureuse. L'autre reste une abstraction, n'existe que dans l'attresse de la poète, qui décline à l'infini le « tuet » du « er » qui répond à ce « ja-er » hein, de Södergran, mais qui est donc un « tuet » qui, de manière circulaire ou de manière détournée, lui permet de dresser à la fois un portrait de l'autre, mais aussi un autoportrait, car la dualité de l'autre est aussi la sienne en regard. En effet, la parole de la poétesse répond, si j'ose dire, au silence têtu de l'amante, soigneusement soustraite à toute inscription genrée, hein, seuls les éléments biographiques nous permettant d'opter pour une destinataire. Et même si la traduction française, comme toujours en français, hein, où les choses sont très genrées grammaticalement, même si la traduction française oblige parfois à opérer des choix, Régis Boyer, qui est l'un des grands traducteurs de Södergran et Boyeux et de nombreux textes suédois, optant, lui, pour le masculin, parce qu'il y a chez lui une résistance, évidemment, à vouloir faire entrer l'homosexualité dans les vers de Karine Boyeux. Alors, je pioche au hasard dans ces poèmes des formules où se dessine ce balancement qu'on a vu dans le premier poème matin, qui se veut aussi une quête d'équilibre, un équilibre extrêmement fragile. Par exemple, « Du effreut au kia din mul, tu es la graine et je suis ton sol. » Dans un autre poème, « Tu es la résurrection de mon âme, tu es la force de ma volonté, tu es la maturité de ma vie. » Ou bien encore, tu contiens tout. Alors, je vais vous lire de manière un petit peu plus... Tu contiens tout, plus que n'en supporte un mortel. Tu es lumière et ténèbres dans une double coque. Et elle reprend à la fin du poème, comme pour le refermer dans cette double. Tu es tout, le but de tout mon être. Tu es le jour et la nuit dans une double coque. Allting est du, et la mit vesen smål. Du et dagen och natten in dubbel skål. Par écho au premier poème que je vous ai lu matin, elle déclare aussi « Du es döden, jag är din. Tu es la mort, je suis tienne. » Ça permet de tracer un petit peu ce parcours. Poème qui se trouve dans Dédicace, tiré du recueil pour l'amour de l'arbre, qui est lui-même une sorte de vaste dédicace. Il s'agit de la plus longue pièce du volume, véritable montée au Golgotha en 15 stations, sur lesquelles je voudrais finir en vous lisant quelques passages traduits que j'entrecouperai de suédois afin de vous donner une petite idée de la musicalité issue de l'osmose entre les images et les sons de la langue suédoise. Alors, je prends au hasard et je passe tout de suite à la station 5 du poème. Je crois que la mort est comme toi, haute, pâle et droite comme toi, des tempes formées dans la même voussure, avec des yeux de mer, des yeux de lointain comme toi, et les mêmes lèvres serrées à en souffrir. Tu es la mort, je suis tienne, ta main, ton esprit. Toutes les forces de vie, tu les as endormies, assoupies d'une torpeur affligée, en rêve et en acte, qui auraient à peine éprouvé ton aile. Mais je t'aime, ma mort, toi, ma longue, lente mort, dans la main close de qui dépérit ma vie, toi, ma douce, douce mort, je te bénis à chaque instant où tu tortures. Menja älskar dig, min död. du min langa bitra död. In vars sluta hän mitt liv för vinnar. Du min ljuva, ljuva död. Jag vill signa det var stund du pinnar. En suédois, on l'entend beaucoup plus. Pendant de longs jours et nuits, j'ai appris durement que nous sommes ici pour perdre ce que nous chérissons le plus. Je veux baiser l'ourlet de ta robe parce que tu as ri. Un rire sans moquerie, et c'est bien assez. Tu t'en vas loin dans la salle, mais l'air palpite de tes pas et chante comme la chante, comme mer, comme chante la mer. J'écoute prisonnière d'une entrave rongeante. Il y a un bonheur de la mort, une perte, un bonheur de la perte, qu'une seule personne peut offrir à ma bouche assoiffée, un bonheur implacable d'éteindre en défaillant et de couler sombrement au profond du puits d'anéantissement. Je me suis arrachée à ton ombre. Une guirlande de supplices me couronne victorieuse, des fleurs brûlantes de nouvelles souffrances. Bien qu'une main si fraîche ait repoussé d'une caresse ma honte, et que ton jugement ait été miséricordieusement doux. L'ivresse me fait vaciller de peine et de malheur. J'ai goûté l'amère boisson que je désire. Je veux davantage, je veux voir le fond du calice. Je veux mourir sur ton seuil, ici. Yavil mer, yavil begern, spousunse, yavil de podin truskel her. Je finirai sur ces paroles, sur ces vers. Que j'ai accompagnée d'une photo que j'aime beaucoup de Karine Boyeux, hein, où elle est prise en trombe et lumière. Et là, on voit ce déchirement toujours, cette espèce de parallèle entre les deux qui se fait jour, hein, dans l'intimité, mais qui, évidemment, a, je pense, une portée tout à fait universelle. Je vous remercie. Je suis désolée pour le téléphone.
Merci beaucoup à vous pour cette intervention très claire et très intéressante. Et qui est aussi une belle découverte pour moi particulièrement, puisque je ne connaissais pas les deux poétesses auparavant. Donc, je vais voir s'il y en a des questions sur le prana. Je vois une première question qui vous dit « Merci pour cette communication très intéressante. Pouvez-vous nous parler de la manière dont ont été reçues les œuvres de ces deux poètes ?»
Oui, alors comme je le disais, l'œuvre de Karine Boyeux a été, vous entendez ? L'œuvre de Karine Boyeux a été bien reçue. Elle était très active dans un certain nombre de milieux politiques, donc il y avait déjà pas mal de relais au sein des publications où elle publiait elle-même. Et puis, les choses, elle écrit des recueils. Vous avez le premier poème que je vous ai lu, Maul, un poème très intéressant, mais bon, il est déjà beaucoup plus accessible que les poèmes que j'ai lus à la fin, qui sont évidemment beaucoup plus sombres et qui sont liés évidemment aussi à l'époque. Donc, la réception des poèmes de Karine Boyeux a été assez élogieuse, assez positive. Il faut dire aussi qu'elle vient après Sutherland, même si elles n'ont de différents âges que 8 ans. Les poèmes de Karine Boyeux sont écrits et publiés à la fin des années 20-30, à une époque où le modernisme est déjà bien ancré. En revanche, les poèmes d'Edith Sutherland qui préfigurent et qui sont pour leur époque beaucoup plus modernes, ont été très mal reçus. Comme je vous l'ai dit, quand elle publie La Lyre de Septembre, elle ne fait pas partie déjà des cercles, elle vit éloignée en Finlande, elle vit aussi éloignée linguistiquement, puisqu'elle est dans un environnement qui est finnois, la Russie est tout près, et elle n'est pas en Suède proprement dit, et elle pratique une langue qu'elle a adopté pour la poésie, mais dont elle sait très bien qu'elle ne maîtrise pas tous les codes, que ce soit les codes purement linguistiques, même s'il y a une maîtrise incroyable, mais justement elle joue de ce petit décalage. Et donc son recueil Lire de Septembre, que je vous l'ai dit, est très mal reçu. On trouve que les images sont choquantes, incongrues, qu'elles ne respectent pas la prosodie, etc. Donc elle a eu beaucoup de mal à se faire accepter, et c'est surtout à Åge Aronsson que l'on doit sa postérité, puisque son dernier recueil, Framtiden, a été édité à titre posthume par Åge Aronsson, qui a ensuite tout fait pour que ces recueils soient réédités. Alors, cela dit, aujourd'hui, Edith Sutherland est plus connue en fait que Karine Boyeux, en tout cas, je crois, à l'étranger. Il y a plus de traductions, plus de travaux. mais en Suède, les deux sont des monuments nationaux. Il y a eu, à la mort de Boyeux, il y a eu pas mal d'ailleurs de poèmes qui ont été écrits. Un poème qui s'appelle « Deux d'Amazone » par un ami poète dont j'ai, le nom m'échappe. Donc, il y a eu pas mal d'hommages aussi. À Göteborg, sa tombe est fleurie puisqu'elle est enterrée à Göteborg. Il y a une statue qui la représente dans la ville. Donc aujourd'hui, elles sont tout à fait reconnues, mais à l'époque, Södergran a été mise au banc parce que sa poésie était trop fracassante et aussi évidemment par les thèmes. En revanche, Karine Boyeux a eu un grand écho.
D'accord. Il y a une deuxième question. Disons, vous avez parlé de l'intégration de personnages mythologiques dans la poésie d'Edith Södergran. Mm-hmm. Comment s'opère chez elle cette réappropriation des mythes et quel rôle cette mythographie personnelle joue-t-elle dans l'écriture poétique?
En fait, les mythes qu'elle emprunte, c'est les mythes classiques. Hein, le personnage de l'Amazone, c'est un mythe féministe qui traverse toutes les époques. Donc, en fait, elle emprunte à la mythologie lambda, la mythologie, on pourrait dire, classique ou grecque, mais j'ai parlé d'Yggdrasil, il y a aussi toute cette mythologie du Kalevala, hein, qui est donc la grande épopée finlandaise, qui traverse son œuvre, alors qui est pour nous, francophones, ou en tout cas non nordiques, plus difficile à décrypter, mais qui est très très présente. Ce qui est surtout intéressant dans ce rapport à la mythologie dans les pays nordiques, c'est à la fois le rapport à la nature et l'absence de frontières entre le vivant, le végétal, le minéral, l'humain, l'organique, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de passerelles et il y a une espèce de fluidité entre le monde du vivant, évidemment, qu'on sent très très bien dans la poésie. Donc en fait, elle réactive tout un tas de figures mythologiques, mais évidemment, l'Amazone, là, surtout à proximité d'un texte comme Vierge moderne, prend tout son sens.
Il y a une troisième question qui dit « Vous avez projeté des poèmes d'Edith Södergran qui mélangent deux langues. Je pense notamment à Vierge moderne. Pourquoi ce mélange, ce bilinguisme? Et vous pensez quoi du choix de la poète qui se situe entre deux langues, peut-être ?»
Alors, d'une part, elle parlait français, enfin, elle comprenait le français, elle le pratiquait et elle connaissait la poésie française. Je pense que là, non seulement elle écrit en suédois, mais là, je pense qu'elle veut en fait redoubler en fait l'effet d'étrangeté et elle opte pour un titre français qui sonne étranger aux oreilles de ses lecteurs, étranger comme l'est en fait le contenu du poème. Donc c'est une sorte presque d'avertissement, c'est-à-dire qu'on est dans une totale nouveauté. Et puis je pense aussi parce que la France a cette espèce de d'aura, de nouveauté, de modernité poétique. Hein. Donc là, il y a une façon d'alerter ou d'interpeller le lecteur. Hein, Vierge moderne, donc la modernité s'inscrit à la fois dans le titre, dans le contenu et dans le choix du français, comme dans Grimace d'artiste d'ailleurs.
On a Christine Planté qui dit « Merci beaucoup pour cet exposé et les lectures en suédois qui permettent de percevoir autrement. Le groupement des deux poètes est-il aussi présent dans la réception suédoise? Figure-t-elle parmi des groupements de femmes plus larges ?»
C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai parlé au début, hein, très souvent, on les groupe toutes les deux, d'une part parce que ce sont deux immenses poètes suédoises, deux illustratrices des courants modernistes. Donc, en fait, elles sont un peu mises… C'est-à-dire que quand on lit Edith Södergran, quand on aime Edith Södergran, on lit et on aime Karine Boye. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Et donc, régulièrement, je passe de l'une à l'autre et je me dis, moi, c'est Edith Södergran qui me subjugue, et puis en fait je reprends Karine, et puis en fait il y a une espèce de dialogue permanent entre les deux. Je pense que Karine Boyeux connaissait très très bien Edith Södergran, la lisait et qui a une sensibilité qui se rejoint, même si elle est beaucoup plus écorchée vive. Et donc dans le monde suédophone, les deux sont vraiment sont très très souvent mises à égalité ou enfin brandies comme des monuments. Hein. Alors, Karine Boyeux, comme elle est un peu plus jeune et qu'elle est davantage rattachée au XXe siècle et au bouleversement du XXe siècle, j'ai lu qu'il y avait un groupement de femme poète ou une association féministe littéraire qui avait pris son nom, je me souviens plus si c'est qui a pris le nom de Karine Boyeux ou qui a monté une association Karine Boyeux. Donc voilà, elle reste très 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 présente. Et d'autant plus, comme je l'ai dit, qu'en Suède, contrairement à la France, et ça pourrait réduire les poétesses françaises, la poésie est encore très lue, très pratiquée et très, très reconnue.
J'aurais moi-même une autre question. En introduisant Edith Södergran, vous avez parlé de sa pratique photographique. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle met sa pratique photographique au service de sa production poétique ou pas?
Je pense qu'il y aurait à creuser parce que elle a sans doute réalisé beaucoup plus de photos que celles qu'on connaît. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est quand même les débuts de la photo. Elle avait une petite caméra, on trouve parfois des petites caméras en bois, et elle a énormément pratiqué la photo, donc qu'elle développait elle-même entre 1911 et 1916 à peu près. Mais comme je vous l'ai dit, à partir de 1917, les finances familiales fondent puisque la mère et la fille sont ruinées. Donc là, elle ne pourra plus acheter de pellicule, elle ne pourra plus développer et sa pratique photographique cessera à ce moment-là. Donc je pense que c'est une activité parallèle. Bon, évidemment, son médium majeur, c'est la poésie, mais il y a vraiment des échos. Et par exemple, cet autoportrait très beau, on sent que dans la photographie, il y a cette volonté d'aller plus loin dans cette recherche d'identité. Et puis aussi de restituer, quand elle va à Davos, par exemple, il y a des photos qu'elle a prises, de très belles photos, avec presque un grand angle, là, qu'elle a prises de Davos. Donc il y a une grande variété de photos, mais en effet, les autoportraits me semblent évidemment les plus intéressants parce qu'ils poursuivent la démarche poétique.
Donc, je vous remercie pour votre réponse. Merci encore une fois pour cet exposé très passionnant. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, on va devoir s'arrêter là. Merci encore une fois à vous.
Merci beaucoup.
Et on reprendra comme prévu à 14h après une pause qui, je pense, est bien méritée.
Très bien. Merci.
Au revoir.
Au revoir.